Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés dans ce studio pour nous faire du bien à tous. C'est le docteur Jimmy Mohamed, à tout le monde, hein, comme ça je vous fais un grand devoir.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, dans notre grand dossier du jour, on vous propose aujourd'hui un éclairage sur la médecine anti-âge. Il ne s'agit pas du tout de vous parler de la dernière technique de lifting à la mode, mais vraiment d'une médecine globale, d'une approche qui prend en compte chaque patient dans son ensemble, pour l'aider au quotidien à combattre le vieillissement. Pour nous expliquer les secrets de cette médecine d'un nouveau genre, nous recevrons le docteur Ramzat Bekov. Il est médecin généraliste et diplômé de médecine anti-âge. On va vous expliquer comment remonter le temps dans son rendez-vous cet après-midi. Ensuite, comme tous les vendredis, il y aura notre chronique Bien chez soi, avec un focus sur nos produits ménagers. Vous avez peut-être chez vous une dizaine de détergents pour la salle de bain, la cuisine, les produits toxiques, partout, ils sont partout pour nettoyer tout. Eh bien, on va vous aider à faire le tri et à mieux les choisir. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle va tenter de nous expliquer une tendance, à savoir la pansexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Bernadette. On l'écoute.
Bonjour, voilà, j'ai 70 ans, 71, et j'ai des problèmes de fuite urinaire. On m'a conseillé de faire des piqûres directement dans la vessie d'acide urétique. J'aimerais savoir si c'est premièrement douloureux, si c'est efficace et combien de temps cela dure. Voilà, je vous remercie.
Alors, je pense que vous parliez d'injection d'acide hyaluronique. Alors, on a interrogé pour vous le docteur Marc Galliano. Il est chirurgien urologue à Paris.
Il y a des incontinences urinaires liées à des contractions de vessie de façon très puissante et on a des envies pressantes d'aller faire pipi, on peut pas se retenir et on a des fuites d'urine. Ou bien on a une incontinence urinaire à cause d'une déficience du sphincter urinaire. Dans ces cas-là, c'est lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on marche, lorsqu'on tousse, lorsqu'on rit. Donc les opérations ne sont pas les mêmes. Bien évidemment qu'il n'y a pas de limite d'âge à ce type d'opération, mais il faut savoir que lorsqu'on a un déficit de contraction du sphincter ou un sphincter qui ne marche plus correctement parce qu'on a été opéré de la prostate, parce qu'on est diabétique, dans ces cas-là, en fonction de l'importance de l'incontinence urinaire, on posait deux types d'interventions. Soit un sphincter artificiel qui remplace le sphincter naturel, ou bien on peut poser des bandelettes, voire des ballonnets, pour pouvoir aider le sphincter à bloquer les urines lors des efforts.
Et voilà, c'était le docteur Galliano, micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. Celle-ci, c'est Luc qui nous l'a posée, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. J'ai retrouvé une boîte de Viagra dans la maison de mes parents. Or, mon père a quand même 75 ans et du coup, ça m'inquiète un peu. Je veux savoir si c'était pas trop dangereux, notamment pour son cœur.
Alors Jimmy, on va pas parler du fait est-ce que c'est bien ou pas de fouiller dans les affaires de papa-maman, mais pour démarrer peut-être une mise au point, le Viagra, c'est un médicament qui a quelle action concrètement sur l'organisme ?
Un peu d'histoire.
Il prend pas ça pour le diabète, on est d'accord ?
Non, évidemment, un peu d'histoire. 1998, une année à jamais gravée dans les annales, pour les hommes et pour les femmes. La France est championne du monde de football, mais aussi les autorités sanitaires américaines approuvent le Viagra.
Mais quel tissu !
Vendu ensuite à des milliards d'exemplaires. Alors on le sait, le Viagra, il est connu notamment pour sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins. Et à l'origine, le laboratoire Pfizer ne cherchait pas spécialement à lutter contre la dysfonction rectile, il cherchait à traiter l'angine de poitrine.
Et on s'est rendu compte
que malheureusement, ça ne marchait pas pour le cœur, mais qu'il y avait certains effets secondaires, comme notamment des érections qui étaient plus vigoureuses, plus fréquentes, notamment chez les hommes. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert
notamment
le fameux
chez
Viagra.
Les hommes, parce que chez les femmes, il se passe quelque chose aussi.
Non, effectivement, c'est que chez les hommes. Effectivement.
Ah, voilà, d'accord, on est d'accord. C'est sur ordonnance, on est d'accord. Donc, si le papa de Luc a ça dans ses placards, s'il n'y a pas trop de risques à avoir. A priori, c'est un médecin qui lui a prescrit, on est d'accord.
Oui, c'est un médecin, évidemment. D'ailleurs, ça ne se prescrit plus vraiment trop le Viagra. Il y en a d'autres qui ont remplacé sur le marché. Alors, tout ce qu'on aimerait vous dire, c'est d'ailleurs, n'achetez pas sur Internet ces médicaments.
Il y en a, attention, sur le marché noir ou je ne sais quoi. Ouais.
Pour plusieurs raisons. Un, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous risquez au mieux que ça ne marche pas et au pire des événements beaucoup plus graves.
Très malade, ouais.
Exactement, être très malade. Et puis surtout, le Viagra et les autres médicaments ont été génériqués et donc ils coûtent quasiment rien désormais. Alors j'en ai pas besoin, mais j'étais à regarder le prix justement, notamment de ces remplaçants.
Le place au passage quand même, on sait jamais.
On sait jamais, toute précision, c'est bon, bref, j'ai besoin de justifier. Mais ça coûte une dizaine d'euros finalement sur prescription médicale, donc c'est assez accessible. Et la posologie, je vous rappelle, c'est une fois par jour, 30 minutes avant l'activité sexuelle prévue.
Quand lui voudrait utiliser les médicaments de son papa, c'est ça ? Non, mais... Alors, on est d'accord, c'est un médecin qui a dû lui prescrire. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications ? Parce que lui s'inquiète pour la santé, il se dit « est-ce que c'est pas dangereux pour mon papa ? Il a plus de 70 ans, je crois ». Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je dirais, à 70 ans, d'avoir encore une activité sexuelle.
Oui, c'est une très bonne chose. La seule chose, c'est que, oh, rappelez-vous, on en a parlé, lorsque vous avez une dysfonction érectile, c'est que vous avez les petits vaisseaux au niveau du zizi qui sont un peu bouchés, qui ne marchent pas très bien. Et donc, forcément, si ces vaisseaux au niveau du zizi ne marchent pas, il est fort probable que vous ayez exactement la même chose au niveau du cœur. Et donc, si jamais vous avez une dysfonction érectile, il faut aller voir votre cardiologue. Et justement, ces traitements sont contre-indiqués chez les patients qui ont une maladie cardiaque qui n'est pas équilibrée. Si vous avez fait un infarctus il y a moins de 90 jours ou un accident vasculaire il y a moins de 6 mois.
Et que vous prenez certains médicaments, hein,
exactement,
c'est ça, hein, les dérivés nitrés, je crois.
Et oui, parce que ça va
entraîner
une hypotension artérielle. Donc, il y a certaines recommandations, mais sinon, ça marche très bien.
Et sinon, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir trouvé ça dans les placards de papa. Parce qu'on est d'accord, avoir une activité sexuelle après 70 ans, c'est très bon pour la santé au global.
Ben oui, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, accessoirement, ça fait travailler les muscles, mais tous les muscles, mais aussi le cœur, car on oublie que le cœur est un muscle et l'équivalent d'une un rapport sexuel, c'est l'équivalent de monter 4 étages. Rappelez-vous, hier, le cardiologue nous l'a dit. Donc voilà,
super.
Monter plein d'étages,
super.
Régulièrement, le plus
Allez,
souvent
matin
possible.
Et soir. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, êtes-vous prêt à remonter le temps avec nous, plutôt à faire disparaître les signes du temps? On va parler vieillissement et surtout médecine anti-âge. Et oui, pas besoin forcément de passer par la chirurgie pour paraître plus jeune, vous verrez. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue docteur Hamzat Bekov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, diplômé de médecine anti-âge et ce sera d'ailleurs notre thème aujourd'hui, justement pour bien comprendre. Quand on parle de médecine anti-âge, votre spécialité donc, de quoi on parle? L'objectif c'est de bien vieillir mais pas d'arrêter, enfin on peut pas arrêter complètement le vieillissement, c'est naturel de toute façon.
Bien évidemment, en fait souvent la médecine anti-âge elle est confondue avec la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. En fait, la médecine anti-âge, c'est tout simplement la médecine préventive. Elle aide aux gens de vieillir en fait en bonne santé, parce que le mécanisme de vieillissement est impossible d'arrêter, mais on peut le ralentir considérablement et ainsi éviter un certain nombre de maladies qui sont liées au vieillissement. C'est-à-dire, en fait, c'est une discipline, c'est pas une spécialité, hein, je préfère préciser parce que souvent c'est confondu en disant pourquoi cette spécialité n'est pas connue. Donc c'est pas une spécialité,
ouais.
C'est une discipline intégrée dans la médecine, mais effectivement enseignée à la fac de médecine, notamment à Paris 12, à Paris 5. C'est un diplôme universitaire qui désigne en fait la combinaison en fait de la médecine qui regroupe la médecine sur la nutrition, sur la micronutrition, sur l'hormonologie et la médecine esthétique.
Mais du coup, vous l'avez dit, ça n'a rien à voir avec la médecine esthétique, mais là, c'est du préventif.
On peut pas... chirurgiste.
La chirurgie esthétique, mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si on a 50 ans, on ne peut pas espérer, en venant vous voir, avoir 40 ans, par exemple. Et d'ailleurs, on va soigner quoi, l'intérieur ou l'extérieur?
On va soigner et l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, la médecine esthétique, en fait, c'est la médecine globale. Donc, on va s'occuper et de votre intérieur et de votre extérieur. Donc, aujourd'hui, nous avons multiples possibilités en fait, de regarder quels sont les mécanismes de vieillissement chez des gens. Par exemple, à quel moment le vieillissement peut s'installer. Il peut s'installer à n'importe quel moment.
Jimmy, c'est foutu, par exemple, on est d'accord. Lui, c'est fait fichu. Quoi. Ouais.
Non, pas du tout.
Mais il faut commencer, parce que souvent, la chirurgie esthétique, quand il y a des défauts...
C'est une question qui revient très souvent. Par exemple, moi, je suis conférencier international. Donc souvent, quand je fais des conférences sur la médecine anti-âge, on me dit... À quel âge il faut venir vous voir? Si on veut prévenir le risque lié au vieillissement, par exemple, prenons juste un exemple. Une résistance artérielle. Entre 18 et 20 ans, une personne qui est obèse, qui fume, qui est sédentaire, qui est exposée au stress, qui boit de l'alcool, qui n'exerce pas les activités physiques nécessaires, elle va avoir une résistance artérielle qui va être moindre. Donc, les artères vont vieillir, la plaque, comme vous savez, athéromateuse, va être de plus en plus nourrie. Donc, ce vieillissement, en fait, va ensuite enchaîner des maladies de vieillissement cardiovasculaire, qui est une des premières causes de mortalité dans le monde. Donc, du coup, on peut prévenir beaucoup de choses. Donc, consulter avant que la maladie ne s'installe.
Nous, on a l'impression que c'est assez nouveau, la médecine anti-âge. Cette discipline, vous avez dit, ce n'est pas une spécialité. Ça existe depuis quand, en réalité, cette prise en charge globale
que
vous décrivez?
Si on retourne vraiment dans l'Antiquité, elle existe depuis très longtemps. Ah, oui. Déjà, la Cléopâtre.
Ah, elle faisait de la médecine anti-âge à son époque.
Bien sûr, oui. En fait, vous avez énormément d'écrits dessus. Elle utilisait des bains au lait, au miel.
On devrait tout faire ça pour rester jeune.
Oui, effectivement, bon, pour rester jeune et belle. D'accord. Donc, sinon, à notre époque, effectivement, il faut remonter à peu près à 30-40 ans. Vous avez des précurseurs de la médecine anti-âge en Europe, comme par exemple Dr Lorsi, que j'ai consulté il y a à peu près 20 ans pour savoir en fait ce que c'était la médecine anti-âge, ce que c'était la médecine de prévention, parce que déjà moi-même, je voulais rester jeune.
Mais du coup, vous l'avez dit, alors, si on met de côté la personne de 20 ans qui va être en surpoids, qui va mal manger, à partir de quel âge il faut commencer à s'y intéresser? Est-ce que
voilà, la
Mélanie, elle n'est pas sur le
déclin. Je savais qu'il allait parler de
moi. Non, mais elle n'est pas sur le déclin.
J'ai 38 ans, je ne l'ai fait pas, on est d'accord. Bah
oui, pas du tout.
Attention, sinon vous quittez le studio immédiatement.
Non, pas du tout.
Il faut rester jusqu'à la fin.
C'est ça. À partir de quel âge il faut commencer à s'intéresser à ça?
Donc, on va dire à partir de 25 ans.
C'est tôt quand même, 25 ans. Attendez, on a quelques années de retard, du coup.
Regardez. La croissance du squelette s'arrête à 25 ans. Le cerveau, ça y est, il est déjà formé. Donc, comme vous savez, l'humain, c'est comme une fleur, en fait. Il fleurit.
À partir de 25 ans, on fane, en fait, c'est ça.
Effectivement. À partir du moment où l'homme est formé, le squelette, le psychisme, tous les organes sont formés, il faut commencer la prévention.
C'est-à-dire
encore
que la pente
une fois,
descendante, elle commence à 25
oui,
ans, finalement.
25 ans, 25, 27 ans.
D'accord.
Mais âge moyen de consultation en médecine anti-âge, c'est 40 ans.
D'accord, parce qu'effectivement, on n'y pense pas forcément à cet
exactement,
âge-là.
Exactement, parce qu'en fait, les effets apparaissent entre 30 et 40 ans. Vous avez le pas de doigt qui commence à apparaître.
Mais oui, c'est
vous
vrai.
Voyez donc, les petites ridules, la fatigue liée à la descente des hormones, ça veut dire relâchement cutané, parce que vous savez qu'à partir de 25 ans, tous les ans, on perd à peu près 1 gramme de collagène, en fait.
Je le sens tellement, moi, déjà, c'est vrai.
Et vous avez
raison.
Plein d'études dessus, en fait.
Oui, vous l'avez dit, baisse des hormones et baisse des organes aussi, parfois, malheureusement.
Alors, effectivement.
Il me montre du doigt, en plus.
Pour mieux comprendre la médecine anti-âge, tout d'abord, est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est que le processus de vieillissement? Car on comprend un peu ce qui se passe, mais...
Par les rythmes, c'est vrai que...
Voilà, le processus de vieillissement, donc vous avez multiples théories. Donc, moi, je vais parler de la théorie qui me tient énormément au cœur, parce que j'ai soutenu de mémoire. Donc, je suis sorti majeur de la fac de Créteil avec un mémoire sur le vieillissement lié au télomère.
Alors,
en 2009, Isabelle Blackburn, donc une chercheuse américaine, a obtenu un prix Nobel sur la théorie de vieillissement lié au télomère. Les télomères, c'est des terminaisons de nos chromosomes. D'accord,
on plus... en a tous, hein, on est d'accord. Tout le monde en a.
On les a. Donc, plus en fait, nos télomères vont se raccourcir, plus la cellule va vieillir, et ensuite, donc, on appelle ça une sénescence, et ensuite la mort cellulaire.
Donc, vaut mieux les avoir longs, plus on les a longs, plus on est jeune. Quoi.
Et effectivement, aujourd'hui, les plus en plus de recherches australiens, américains, tournent en fait vers ça, en disant que, effectivement, c'est une théorie qui tient la route. Pourquoi? Parce que le stress oxydatif, c'est-à-dire que, en fait, tout ce qui va nous exposer en fait, à s'oxyder, va ralentir, raccourcir les télomères.
Et comment je sais que mes télomères sont courts ou longs? J'ai un moyen de le savoir.
Ça, il y a une possibilité de le faire. Donc, vous avez un certain nombre de laboratoires qui proposent de vérifier votre indice télomérique. En fait.
On y reviendra. Donc, on peut voir. Docteur Bekoff, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Oui. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va continuer à vous détailler les secrets de la médecine anti-âge. Et justement, on va passer les portes de la consultation pour comprendre comment s'y prend concrètement un médecin qui propose ce type de programme pour nous aider à rester jeunes, vu de l'extérieur et de l'intérieur. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, Sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, sur notre plateau, notre invité, vous êtes toujours avec nous, c'est vous, docteur Ramzat Bekoff. Vous êtes médecin généraliste diplômé de médecine anti-âge. Alors, les personnes qui vous consultent pour ce bilan anti-âge, on va dire, pourquoi ils viennent vous voir? C'est quoi la plainte principale, si je peux dire?
La plainte principale, c'est-à-dire, je les diviserai en deux parties.
Oui.
Les premières personnes, en fait, on va dire 50-50. Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont entendu parler de bouche à l'oreille de la médecine anti-âge, donc parce qu'ils ont vu quelqu'un que j'ai pris déjà
qui a perdu 10
charge.
Ans, et dit, moi aussi je veux.
Oui, oui. Donc, et une deuxième partie, c'est la fatigue. Je suis fatigué, je dors bien, j'ai une vie saine, je mange bien, mais je me sens fatigué. Donc, ça, c'est les deux principales causes, en fait.
Et justement, si on vient vous voir en consultation, comment ça se passe? Je suppose que c'est des consultations qui prennent du temps, un peu plus qu'en temps normal.
Énormément de temps, 1h30, 2h.
Ah oui, c'est beaucoup plus. Ouais.
C'est-à-dire, en fait, comme je vous ai dit, c'est une prise en charge globale, c'est-à-dire physique, psychique, esthétique. Donc, on va d'abord interroger un patient, comme d'habitude, on le fait en médecine générale, antécédents personnels, médicaux, chirurgicaux, familiaux, allergies, les risques liés à
vous
des habitudes
nocives. Vous voulez tout
savoir,
en fait, en réalité.
Oui, oui, en fait, c'est-à-dire que en fait, la consultation, elle ne va pas différer de la consultation de médecine générale normale, si vous voulez, mais un peu plus approfondie. Ensuite, bien évidemment, un examen clinique minutieux. Donc, on va regarder sa peau, ses ganglions, son système cardiovasculaire.
Peser, mesurer,
ouais, prendre la tension. Et effectivement, ce que j'accorde énormément aujourd'hui, lié à, aux dernières recherches de la microbiote, vous savez que ça, c'est un vaste sujet aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en train de finir un DU de microbiote et santé à la Sorbonne. Et effectivement, c'est considéré comme un organe à part qui peut perturber énormément d'organes.
Donc, y compris le vieillissement. Ça se passe aussi dans notre ventre.
Effectivement, bien évidemment. Pour moi, je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs qui va sortir l'année prochaine. Et dessus, j'accorde énormément d'importance. En fait. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais palper le ventre, donc il y a plusieurs sortes de palpations abdominales, à vérifier les organes qui sont en profondeur, moyenne et superficielle. Donc déjà à la palpation, je vais découvrir si le patient il a une sorte de colite chronique. Oui. C'est-à-dire, lorsque je vais palper le ventre, effectivement, il va dire « j'ai mal au niveau de son côlon gauche, du côlon droit, donc l'intestin grêle. Mmh. » Donc effectivement, je vais découvrir. Et souvent, d'ailleurs, c'est une des causes aussi de la consultation, parce que les patients, ils ont consulté un certain nombre de spécialistes, ils ont fait des fibroscopies, des coloscopies, parce qu'ils ont mal au ventre et personne ne détecte. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un syndrome de hyperperméabilité intestinale. En fait, c'est des micro-lésions qu'on va créer à l'intérieur de nos intestins qui vont être en fait attaquées par notre microbiote de l'intérieur.
Ça fait des trous, en fait.
Et qui va créer une sorte d'inflammation. Donc, lorsqu'en fait, on va avoir ces micro-lésions à l'intérieur, notre microbiote va précipiter dedans. Notre système immunitaire va lutter en fait contre ces infections. En fait, ça va être reconnu comme une infection, qu'à la base, la microbiote est là pour nous faire du bien. Donc, ça augmente notre système. En fait, ça produit notre système immunitaire et ça nous protège. Mmh. Et donc, lorsqu'elle va pénétrer dedans, notre système immunitaire va s'activer. Donc, elle va détruire en fait ces agents qu'elle considère comme pathogènes. Donc, les produits de dégradation des microbes et des champignons ensuite vont être absorbés en fait par la circulation sanguine, et les gens vont vivre avec ces métabolites qui vont enchaîner un certain nombre de symptômes, comme des douleurs abdominales, comme des douleurs musculaires, fatigue, des douleurs articulaires. Et donc ça, on peut le rechercher en faisant des examens spécifiques.
Et avec tout le résultat, on va dire les résultats de ces bilans, de ce large bilan que vous réalisez, vous allez déterminer l'âge biologique de la personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai 38 ans, mais peut-être que mon âge biologique, il est très différent. J'espère que vous allez me dire qu'il est plutôt... Non, j'aurais jamais dû la poser comme ça, la question.
D'une jeune femme de 25 ans, tout va bien,
Mélanie. Regardez, en fait, dès qu'on va être stressé, dès qu'on va être oxydé, dès qu'on va être infecté, enflammé...
Mais il est possible que j'ai 50 ans d'âge biologique ?
Oui, parfois. En fait, quand on regarde l'indice télomérique, parfois ça arrive. Mais j'explique aux patients que c'est rien de grave. Pourquoi ? Parce que en fait, les télomères, elles varient en fonction...
Ça peut un peu se réparer, quoi.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de réparer déjà de l'intérieur.
Je ne viendrai pas vous voir, je ne veux pas savoir.
Mais non, mais parce que là, vous m'avez mis une petite angoisse, là, parce que souvent, on dit que je suis plus vieux que mon âge. Moi, je pense que c'était la sagesse.
C'est la maturité.
La maturité, l'intelligence, l'élocution aussi, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas être aussi brillant. Mais est-ce que, justement, lorsqu'on a l'air un peu plus vieux, ça veut dire qu'on a peut-être...
Vous avez vu des télomères hyper courts.
Est-ce que ça peut être... Est-ce qu'avec l'expérience, vous arrivez à voir quelqu'un dire,
tiens, regardez,
Jimmy, vous pensez quoi, Jimmy?
Jimmy, je crois qu'il est... il a un bon regard. En fait, moi, je le vois souvent dans le regard.
Il ne répond pas à la question.
En fait, quand le patient arrive, déjà, l'approche continuellement, l'éclat de la peau, du regard. Ouais. Parfois, j'ai du mal à donner l'âge au patient qui arrive tout de suite. Et vous verrez, parfois, vous mettez 10 personnes qui ont 70 ans, ils ne vont jamais avoir le même aspect. Vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait.
Et que, effectivement, quand vous regardez, on retrouve en fait un certain nombre de choses qui peuvent expliquer le vieillissement prématuré. En fait, la médecine anti-âge, c'est effectivement arrêter en fait ralentir ce vieillissement prématuré lié à un certain nombre de...
Et c'est vraiment prendre l'individu dans son ensemble. D'accord, c'est pas que de l'esthétique, parce que je crois que vous est arrivé de détecter des maladies, même très graves chez des patients, parce que vous laissez rien passer de côté, en fait. Hein,
effectivement,
c'est ça,
parce que voilà, donc moi je fais partie des médecins. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un parcours d'interniste. Bon, je suis installé en tant que médecin généraliste parce que voilà, c'est comme ça. Mais j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le service de médecine interne. Et comme Jimmy va vous dire, médecine interne, ça regroupe pratiquement toutes les spécialités.
Bien sûr, bien sûr.
Quand le spécialiste ne sait pas, il termine en médecine interne.
C'est les doctorats ou c'est un peu de la médecine. Voilà. Ouais.
Et donc, il y en a pas beaucoup. Hein. Ouais.
Et donc, du coup, si vous voulez, donc je vais, c'est pas parce que je me considère comme meilleur, hein, surtout pas, c'est juste que chacun sa spécialité. Et que donc, voilà. Donc, du coup, le patient.
Vous pouvez détecter une maladie avec cette médecine, avec un examen anti-âge,
voilà.
Je veux dire.
Donc, je vais vous dire, un patient, il y a récemment, qui est venu, l'âge de 32 ans, fatigue. J'ai vu que vous avez transformé un ami à moi qui a perdu 20 kilos parce que là, le fait de traiter le microbiote, aujourd'hui, on sait qu'il y a une corrélation entre la microbiote et l'obésité. Donc, il était venu pour ça, parce qu'il se sentait fatigué. Mmh. Alors que c'est un sportif, donc je palpe ses ganglions, je tombe sur des ganglions qui sont inflammatoires. C'était un lymphome, donc c'était un cancer. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire qu'il faut rester extrêmement vigilant. Lorsqu'on
et que la santé, la jeunesse, c'est un ensemble en fait, c'est pas que les rides sur le visage.
Effectivement, donc docteur. Ça c'est la médecine morphologique si vous voulez, qu'on ne peut pas dissocier non plus aujourd'hui de la médecine anti-âge.
Docteur Bekoff, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes, ne bougez pas.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur la médecine anti-âge, cette médecine d'un nouveau genre, totalement personnalisée. Et justement, on va passer à la pratique, une fois qu'on a fait son bilan. Que peut-on mettre en place concrètement pour lutter contre les signes de l'âge? En combien de temps obtient-on les premiers résultats? A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Ramzat Bekoff, vous êtes médecin généraliste diplômé de médecine anti-âge et c'est notre sujet aujourd'hui. On a vu juste avant que pour chaque patient, avant de déterminer le plan d'attaque pour lutter contre son vieillissement, vous réalisez un bilan très complet et ensuite, eh bien, des solutions, il y en a plusieurs que vous proposez au cas par cas. Ce qui est clair en tout cas et ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas prendre en charge, je vous dis une femme par exemple, qui aura 20 ans et une autre qui en a 50, c'est très différent.
Oui, effectivement. Donc, le bilan va se différer en fait en fonction de l'examen clinique, des pathologies que le patient va présenter ou des plaintes. Par exemple, la nutrition, qui, vous savez, on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels en fait, d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes intolérances, on n'a pas les mêmes capacités d'absorption.
Vous dites tous qu'on a presque tous des intolérances alimentaires.
Totalement,
d'ailleurs.
Totalement,
oui. J'étais étonné par ça.
Oui, oui, oui. En fait, pourquoi on a des intolérances ? Parce que tout au début, en fait, on mastique très mal. Donc, on perd notre réflexe de mastication. Et en fait, tout ce qui ne se fait pas dans la bouche, alors que les aliments doivent arriver dans l'estomac dans un état semi-liquide.
Ah
pour
oui.
que l'estomac puisse les digérer correctement et ensuite propulser dans le...
Jimmy, moi, mange très vite, je pense que ça n'arrive pas liquide.
Et en fait, ça va créer des micro-lésions en fait, au niveau de notre muqueuse. Et donc, du coup, ça va déboucher vers des petites
donc, mâcher, finalement, c'est un moyen de lutter contre le vieillissement aussi.
Mâcher beaucoup. Surtout dans le tube digestif, parce que ça va entraîner un certain nombre de problèmes de notre... le système gastro-intestinal.
Mais justement, c'est intéressant parce que quand on parle de médecine anti-âge, on a toujours l'impression que c'est des trucs inabordables, très compliqués. Et là, vous dites que déjà, la base, c'est l'alimentation. Ça veut dire qu'au-delà de la mastication, bien manger, c'est moins vieillir, en fait, ou en tout cas ralentir le processus de vieillissement.
Bien sûr. Après, vous voyez, il faut savoir adapter aussi les aliments antioxydants, les aliments qui sont... Vous voyez, plus vous allez garder une assiette colorée, c'est-à-dire avec des aliments qui diffèrent, plus vous allez
donc vous apporter... Donc des fruits et des légumes en profusion,
fruits,
par exemple.
Effectivement, vous allez mieux nourrir votre microbiote aussi, qui va aussi participer dans la meilleure digestion. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous savez que dans notre tube digestif, on a découvert qu'il y a plus de 100 millions de neurones digestifs. D'ailleurs, les médias parlent du deuxième cerveau à l'intérieur de nos intestins. Et effectivement, les neuromédiateurs qu'on va produire, en fait, les sérotonines, le dopamine, dans notre axe digestif, va aussi influencer notre sommeil, notre humeur, notre psychisme. Donc, effectivement, on prend aussi en charge le côté psychique du patient.
Mais c'est quoi les meilleurs aliments anti-âge ? Vous avez dit colorés. Est-ce que vous avez des chouchous dans l'assiette, par exemple, qui sont vraiment les trucs à consommer régulièrement ?
Par exemple, moi, je dis aux patients variés. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire aux patients mettez que des antioxydants. Donc, il y a la microbiote qui vous voyez qu'il y a des recherches, il y a plus de 600 études à travers le monde. Qui
mais aliments
en fait,
anti-âge, antioxydants, lequel par exemple ?
C'est-à-dire par exemple des fraises, des framboises, oranges, topinambours, vous avez des petits pois, artichauts. Donc tout ça...
Il n'y a pas beaucoup de viande là pour l'instant. Hein.
Donc les viandes maigres plutôt, vous voyez, donc plus les poissons. Donc je vais effectivement qui sont riches en oméga si vous voulez, pour pouvoir protéger nos cellules. On va proposer aussi donc, des aliments qui sont... riche en prébiotiques, pas en probiotiques, parce que tout le monde sait ce que c'est des probiotiques, mais personne ne sait que les prébiotiques sont extrêmement importants pour notre santé, pour garder notre tube digestif et notre microbiote en bonne santé.
Et justement, vous parlez de probiotiques, mais est-ce que vous prescrivez aussi des compléments alimentaires ?
Effectivement.
Ce qu'on appelle la micronutrition, donc on repart avec quoi ? Avec des vitamines ?
Des vitamines, des minéraux, vous avez
mais
des enzymes.
Celles que vous allez me prescrire à moi ne seront pas les mêmes que celles que vous prescrivez
exactement,
à Jimmy, j'imagine.
Exactement, en fait, encore une fois, en fait, lorsque je vous fais un bilan complet, dans lequel vous aurez en fait, les acides gras, les neuromédiateurs, on va vérifier votre profil vitaminique, on va regarder votre pouvoir de stress oxydatif, et en fonction en fait, de bilan, ça c'est la partie biologique en fait, qui est individuelle, à chaque personne. C'est-à-dire que les hormones, donc on va doser vos hormones, on va regarder ce qui se passe sur le plan hormonal, parce que vous savez que tous les 5-10 ans, en fait, le taux d'hormones baisse. Mmh. Combien de fois j'ai découvert des hypothyroïdies, des hyperthyroïdies, des thyroïdies auto-immunes. Donc, vous voyez, c'est un
global.
Programme vraiment individualisé, global.
Ça nous
pour
fait rajeunir,
personne.
Entre guillemets, de vous écouter, en fait, mais en même temps, ça nous garde en bonne santé, surtout.
Bien évidemment,
hein, c'est ça.
Donc.
Vous dites aussi qu'il faut choisir l'eau que l'on boit pour éliminer les toxines. C'est-à-dire qu'il faudrait boire quelle eau pour rester en bonne santé et
voilà,
jeune.
Donc vous avez énormément d'études aujourd'hui concernant la silice. En fait, silice, elle est contenue dans beaucoup de dans l'eau minérale.
En bouteille, hein, donc, on est d'accord.
En bouteille, en fait. Il faut essayer de choisir les bouteilles en verre. Vous savez, le plastique, c'est, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, et en fait, la silice, elle va capter le métal et elle va l'éliminer à travers les urines.
Et du côté des rides, alors ma femme me dit que je commence à être ridée, qu'il faut absolument
faire quelque
chose. Mais
méchant, ça va, vous n'êtes pas si mal, Jimmy.
Oui, mais elle me dit que je suis en train de me dégrader, que je suis sur la pente descendante et elle a sûrement raison. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Parce qu'on se dit, bah,
voilà.
Non, ça c'est arrêtez la chirurgie.
Arrêtez de lever les sourcils. Là,
ah oui, c'est ce qu'elle me dit, d'arrêter de froncer les sourcils.
Là, on rentre dans plutôt l'aspect morphologique de vieillissement qui fait partie de la médecine anti-âge. Parce que c'est
on a envie de paraître jeune et c'est normal. Hein.
Bah, aujourd'hui aussi, la société fait
le veut, bien sûr.
Oui, et puis,
alors aider Jimmy avec ses rides, il fait quoi ?
Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, la médecine, elle propose aujourd'hui des programmes d'épiling, la radiofréquence, la médecine plutôt régénérative aussi. Par exemple, moi, mes patients m'ont poussé à faire les études de médecine esthétique parce qu'ils ne voulaient pas consulter d'autres médecins. Ouais. Parce que c'est plutôt, vous voyez, quand on fait une conférence, ça fait 20 ans que j'ai 22 ans que j'exerce.
Vous voulez que vous les suiviez de A à Z, quoi.
Effectivement.
C'est ça.
Et donc, du coup, voilà, la radiofréquence. Les LED, vous savez, donc...
Les LED, mais comment ça marche ? Parce que du coup, on a
moi,
du mal à comprendre.
Moi, j'en ai plein des LED à la maison.
Oui, mais... parce que la lumière, on se dit, lumière UV, les rayons du soleil, ça abîme la peau. Donc là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Effectivement, en fait, c'est biophotomodulation, si vous voulez. En fonction, aujourd'hui, vous avez plein de machines, appareils, qui sont assez bien faits pour aider les médecins. En fait, il y a carrément des programmes régénération en profondeur, en superficiel. Donc, vous n'allez pas utiliser la lumière rouge, lumière bleue, lumière verte, lumière jaune. En fonction, c'est encore une fois en fonction de votre peau, de qualité, en fait de la profondeur de vos rides. Par exemple, la radiofréquence, elle va régénérer en profondeur. Vous allez produire plus de collagène. Vos fibroblastes vont commencer à se produire en plus et donc ça va créer un lift naturel. Donc, on peut parler ensuite des fillers, c'est-à-dire les injections de l'acide hyaluronique.
Des injections même avec des micronutriments, je crois qu'on
voilà,
peut faire aujourd'hui.
Bio-Nutrilift, par exemple, ce que j'utilise par exemple, souvent chez mes patients qui viennent me voir.
Ça sert à quoi
et
ça,
ça en fait, on vous injecte en dessous de la peau quelques filets d'acide hyaluronique, très légèrement. Et entre ces filets, on vous injecte en fait, les produits antioxydants, c'est-à-dire des coenzymes, des vitamines,
là, c'est
des mélanges.
C'est un super coup d'éclat d'un coup.
Effectivement,
quoi,
ça tient.
Six mois pendant,
Non, plusieurs mois.
Ouais.
Ma, par exemple, lorsque je régénère de l'intérieur, puisque l'organisme il est moins oxydé, c'est-à-dire à partir du moment où vous n'êtes plus inflammatoire, votre peau va être mieux régénérée.
Déjà s'améliorer, hein, ouais, c'est ça.
Par exemple, un des résultats qui tient chez une de mes patientes, elle a 72 ans, ça fait 18 mois que je l'ai fait, et elle a une excellente
peau. C'est toujours pareil, la peau.
Bien sûr.
Alors, on l'a compris, c'est une prise en charge globale, mais du coup, est-ce qu'on a... non pas des avant-après, est-ce que vous avez des preuves que le patient, finalement, il s'est amélioré sur des prises de sang, sur un aspect, un critère objectif ? Parce qu'on peut se dire, eh ben, on vient vous voir, on est pris en charge, c'est sympa, on se sent mieux, on est plus en forme, mais derrière, est-ce que réellement, on peut objectivement, il y a quelque chose qu'on peut quantifier ?
La seule personne qui est le plus objectif, c'est bien évidemment le patient. Donc, quand il vient vous voir, c'est la fatigue, il dort mal, il se sent énervé, il se nourrit mal, donc il est obèse. Effectivement, tous ces paramètres s'améliorent. Moi, je revois les patients tous les 6 mois. Mmh. Donc, le suivi, ce n'est pas tous les 2 mois. Donc, tous les 6 mois. Je leur donne un programme. Voilà, ils jouent le jeu ou ils ne jouent
voilà,
pas le jeu.
Voilà, s'ils ne jouent pas, ça ne marche pas.
Dès le début, je leur dis, si vous ne rentrez pas dans un programme de suivi de 18 mois, par exemple, moi, je considère 18 mois parce que comme ça, les gens s'habituent. Mmh. C'est une médecine. Ce que je leur dis, c'est aujourd'hui, je vous soigne pour des années à venir.
Ça. Et donc, l'idée, c'est de continuer ces habitudes.
Effectivement.
Hein,
donc
ça.
Déjà, les plaintes, c'est l'affinement du silhouette. C'est-à-dire, ils perdent le ventre. Mmh. Ils sont moins fatigués ou plus du tout fatigués. Le sommeil qui s'améliore. Ils ont le meilleur appétit.
En combien de temps ils s'améliorent justement quand ils suivent votre programme, vous dites je le revois 6 mois plus tard. En combien de temps déjà ils se sentent plus jeunes, quoi, je veux dire.
C'est-à-dire que encore une fois, en fonction de leur état de santé, en fonction des pathologies, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on retrouve.
C'est cas particulier, mais.
Particulier en compte. En moyenne, lorsque je traite des infections digestives, par exemple, il y a beaucoup de patients qui vivent avec un syndrome de hyperperméabilité intestinale. Donc, quand on commence le traitement de l'hyperperméabilité intestinale, on vire les intolérances alimentaires qui font finalement énormément d'inflammation à l'intérieur de nous. En 3 à 6 mois, il ne faut pas compter avant.
Alors, on a parlé tout à l'heure du stress qui va accélérer le vieillissement, mais est-ce que vous avez des conseils pratiques justement pour les gens qui sont un peu stressés, et on peut les comprendre dans cette période de Covid, même si apparemment les choses s'améliorent, heureusement.
Donc, effectivement, la méditation, écouter de la musique, la spiritualité. Aujourd'hui, par exemple, si vous lisez le livre de Elizabeth Blackburn, qui a décrit en fait l'effet néfaste de stress oxydatif sur les télomères, elle vous conseille carrément, parce qu'il y a des études dessus. C'est-à-dire, les gens qui sont spirituels, qui écoutent de la musique, qui se font plaisir, qui font de yoga...
Ils ont des télomères plus longs, donc ils sont plus jeunes.
Il y a une étude à Copenhague qui a été réalisée sur des infirmières avec des enfants autistes. Ils avaient des enfants autistes. Et effectivement, en fait, on les prenait en charge avant. On voyait qu'ils avaient des télomères très courts. Ensuite, on leur apprenait à se déstresser, à ne pas appréhender la vie quotidienne. Et en fait, le fait d'être psychologiquement un peu plus...
peut aider, soulager.
Équilibrer, rallonger leur télomère. La spiritualité, la musique, le sport, vous voyez tout ça.
Ça peut nous faire rajeunir.
Effectivement. La relaxation, les cours de pilates, vous voyez, c'est une manière de... Voilà, donc...
Chouchouter ses télomères.
Oui. Et vous avez parlé du mode de vie. Est-ce que se mettre au vert, aller à la campagne, baisser la pollution, est-ce que ça peut avoir un impact notamment sur le
vieillissement ? Effectivement. Aujourd'hui, on parle aussi des POPs, vous savez, des particules qui sont... indétectable malheureusement parce qu'on n'a pas de moyens et on sait que les gens qui vivent dans la campagne, ils ont la meilleure qualité de vie, que même il y a une espérance de vie qui est un peu plus longue, je ne peux pas vous dire des chiffres, mais il y a des études dessus en fait qui montrent que les gens qui partent vivre dans la campagne, ils ont une meilleure qualité de vie
et vivent plus longtemps jeunes avec une apparence
comme vous Mélanie,
voilà,
tout va bien,
c'est ça, c'est des années à la campagne, voilà. Ça quand j'étais petite. Merci beaucoup docteur Bekov d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci pour cet éclairage sur cette médecine anti-âge qui est donc en fait, on l'a compris, une médecine qui prend en charge l'individu dans son ensemble. Bonne continuation à vous.
Europe 1.
À venir comme tous les vendredis, notre chronique Bien chez soi, dans laquelle aujourd'hui on vous guide pour faire le tri dans vos produits ménagers. On en a beaucoup trop et en plus ils sont pas toujours bons pour notre santé. On va tout vous expliquer, vous aider à faire le tri. Restez avec nous sur Europe 1.
Faites de votre logement un cocon où vous vous sentez bien, avec un air intérieur plus pur, plus propre. Le rendez-vous bien chez soi avec les purificateurs d'air Dyson.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Bien chez soi avec un point aujourd'hui sur nos produits ménagers. Tiens d'ailleurs, vous, combien en avez-vous chez vous ? Savez-vous qu'en réalité, un ou deux allez suffisent pour nettoyer correctement son intérieur ? Faites-vous attention à leur potentielle toxicité ? Comment les choisissez-vous ? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Les produits ménagers que j'utilise chez moi, donc il y a de la javel, du vinaigre blanc.
Des produits pour le sol, genre le carrelage.
J'utilise de plus en plus de produits bio et naturels, comme l'alcool ménager, bicarbonate de soude, des choses comme ça. En fait.
J'essaie qu'ils ne soient pas trop toxiques et je regarde les pictogrammes qui sont au dos pour voir justement s'il n'y a pas des pictogrammes corrosifs ou bien cancérigènes.
On sait qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens, pour les nappes phréatiques aussi, il y a plein de conséquences hyper néfastes en fait.
On peut avoir des problèmes sur la peau, quoi, des irritations graves même des fois. Quoi.
Ma grand-mère qui avant faisait ça sans gants avait la peau très fragile et donc oui, ça lui créait des rougeurs.
Et je connais des personnes qui ne peuvent plus du tout utiliser ça ou bien qui mettent des gants.
Alors Jimmy, vous qui êtes un as du ménage, d'abord un point peut-être sur la toxicité des produits ménagers courants qu'on utilise tous. Ils sont vraiment si nocifs que ça pour nous ?
Eh oui, de nombreuses études ont montré que les produits ménagers du quotidien comme les produits vaisselle, la lessive ou même les sprays pour les vitres pouvaient contenir des substances chimiques qui vont provoquer des allergies, des irritations et même des symptômes respiratoires. Et tout ça, c'est sans vous parler du risque de brûlure, notamment en cas de mauvaise utilisation.
Alors justement, avant de passer au tri dans nos placards, un petit rappel pour leur rangement. Un rappel toujours utile, hein, le moins possible, évidemment, les produits ménagers à portée des enfants, mais il faut le dire.
Il faut le dire et ça paraît trivial, mais c'est important. Mettez-les si possible en hauteur ou bien vous fixez tout simplement des blocs portes. Car en fait, l'une des premières causes d'intoxication par ingestion, c'est tout simplement dû au transfert d'un produit ménager dans un récipient non prévu vue par ça. Alors, on va faire très
comment
simple.
On fait quand les enfants ils savent ouvrir les blocs portes, parce que moi, moi, c'est comme ça maintenant.
Ah bah, c'est
qu'ils
sont
plus en ménage, âge. On arrête. Alors.
On arrête le ménage, mais ça veut dire qu'ils sont peut-être en âge de comprendre. Mais surtout pour les plus petits enfants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut éviter de mettre l'eau de javel qui va être contenue dans la bouteille qu'on va acheter dans une bouteille d'eau vide et qui va traîner dans la salle de bain, car en fait, un enfant pourrait facilement les confondre. Et je vous donnerai qu'un seul chiffre. 25% des intoxications dues à des produits ménagers touchent d'abord les enfants de 1 à 5 ans.
Alors justement, Jimmy, pour guider les consommateurs, le gouvernement a décidé qu'ils allaient lancer donc le label Toxiscore. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous connaissez le Nutri-Score qui permet de classer les aliments de A à E en fonction de leur valeur nutritionnelle. Eh bien, on aurait le Toxiscore. Et donc, ce nouveau label permet de signaler les produits ménagers les plus toxiques. Alors, l'objectif, il est simple, c'est de prendre en compte les risques pour l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, mais aussi le risque pour votre propre santé, car il faut être honnête, les étiquettes des produits sont souvent complexes et on ne connaît pas trop les précautions d'emploi. Et du coup, le principe est simple, c'est de vous donner des conseils du quotidien, à savoir porter des gants de protection ou bien d'aérer une pièce après chaque utilisation.
Alors ce Toxiscore, pardon, il sera ni obligatoire, mais il ne sera même pas en place avant 2022. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, monsieur propre, docteur Jimmy Mohamed?
C'est vrai qu'avec la crise du Covid, on a tendance à vouloir tout désinfecter et nettoyer en permanence, même si c'est un peu calmé. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on a de nombreux produits qui vont revendiquer le fait de détruire le coronavirus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de limiter la quantité de produits ménagers à 1 ou 2 grand maximum. C'est largement suffisant pour désinfecter toutes les surfaces. Pour le reste, vous pouvez utiliser des produits simples, de l'eau et du savon, du vinaigre, du bicarbonate pour remplacer tout simplement les détergents ou même les produits d'entretien. Non seulement c'est bon pour votre santé, mais en plus, ce sera bon pour la planète.
Merci beaucoup, Jimmy. Donc, on a dit alias Monsieur Propre cet après-midi. Merci pour tous ces conseils.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Marlène. On l'écoute.
Bonjour Catherine. Je suis pansexuelle. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, je ne fais pas vraiment attention à son genre. Je vais me mettre avec la personne plutôt parce que le feeling passe bien et que j'ai une bonne intuition sur la personne, mais j'ai du mal à en parler avec mon entourage. Du coup, je voulais savoir si vous auriez des conseils à me donner pour leur en parler.
Alors Catherine, d'abord, on va expliquer pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui, hein, des mots nouveaux comme ça qu'on n'a peut-être pas en tête. La pansexualité, c'est quoi ?
Alors d'abord, avant de dire ce qu'est la pansexualité, disons-nous bien qu'il y a régulièrement des nouveaux mots qui sortent sur le sujet effectivement de la sexualité, comme si chacun avait besoin de se définir dans sa singularité et puis après de décider à quel groupe il appartient. Et du coup, ça fait un peu les choux gras des médias. Et,
il y a les sapiosexuels, les pansexuels.
Voilà, on s'y perd complètement, comme si on avait besoin de dire alors, attention, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, moi je suis comme ça, reconnaissez-moi comme
ça. Pansexuel, ça a l'air assez ouvert quand même, hein, pour le coup.
Alors oui, ça flirte avec le sujet de la bisexualité, si ce n'est que la bisexualité, c'est le désir pour les deux sexes, et le désir sexuel et le désir amoureux qui peut se porter sur un sexe comme sur l'autre, alors que la pansexualité, c'est le désir sexuel ou le désir amoureux pour l'autre, quel que soit son genre, donc ne tenant pas compte du genre. Voilà, la limite, elle
c'est
est un peu
différent, c'est subtil. Quoi.
C'est subtil. Voilà. Après, on peut se poser la question de ce que, dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on aime quelqu'un indépendamment de son sexe, ou est-ce que parce que ce serait à penser qu'on aime l'autre que parce qu'il a un sexe. Vous voyez, c'est toujours un petit peu compliqué, et c'est pour ça que ce sont souvent les stars qui sont à l'origine d'une manifestation, d'une exhibition un peu de leur choix amoureux, de leur choix sexuel, de leur comportement sexuel, qui tout d'un coup mettent en avant un terme. Et puis alors, comme avant, on écoutait tous, ou aujourd'hui encore, une musique, et bien là, on adhère à un courant. Peut-être nous dire quand même que dans tout ça, il y a la complexité de l'humain, du désir humain ou de l'amour, et que ça rend compte de plein de choses un peu complexes, et que de se dire que est-ce que j'aime l'autre pour son sexe ou est-ce que j'aime l'autre pour l'autre, dans la réalité, je ne suis pas sûre qu'on sache toujours très bien faire la frontière.
Et là, comment ça s'explique en fait ? Donc elle explique bien qu'elle ne fait pas attention au genre, elle est pansexuelle. Ça veut dire que là, c'est vraiment quoi ? La personnalité de l'autre qui compte en fait, plus que c'est une fille ou un garçon, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas vrai chez les hétéros, chez les bi, bien sûr. C'est ça qui est assez compliqué parce que ça ne concerne pas que la sexualité puisque c'est même l'élan amoureux. Or, l'élan amoureux, on peut aimer très fortement quelqu'un avec qui on ne va pas se consommer sa sexualité. Imaginons un hétérosexuel qui aime très fort une amie sans pour autant la désirer sexuellement. C'est une amie fortement aimée comme un ami fortement aimé. Et dès lors que l'on met de la sexualité et donc de l'excitation et du désir, dire, c'est un peu curieux de se dire qu'on n'a pas pensé qu'il avait lui-même un sexe, donc un genre.
Mais ce qui est un peu curieux là aussi, c'est qu'elle nous parle d'une sexualité assez ouverte, enfin finalement, quelque chose donc, qui n'est pas déterminé par le genre, en tout cas. On se dit, bon, bah, elle est cool, elle est détendue, elle est ouverte, et pourtant elle dit, j'ai du mal à parler de ma pansexualité avec mon entourage. C'est un peu étrange quand même, comme comportement du coup.
Oui, ceci étant, je crois qu'on devrait aussi ne pas être toujours dans la liberté d'exprimer sa sexualité.
Mais elle a l'air d'avoir honte presque, enfin, je ne sais pas trop, oui, parce c'est
que
pas clair.
Je pense que justement, ce qui n'est pas clair, c'est peut-être que ce terme ouvre tout le champ des possibles, mais ne l'aide pas à bien se situer en réalité. Je crois que c'est parce qu'il y a peut-être une difficulté quant à se situer qui fait la difficulté de dire qu'on est dans quelque chose qui est très large et à la fois...
Elle a peur d'effrayer les autres, c'est ça, peut-être ?
Peut-être d'effrayer les autres, peut-être d'être jugée, mais ça, c'est vrai pour n'importe qui. Hein. C'est donc, je ne suis pas sûre que ça soit propre à la pansexualité. On pourrait parler de l'homosexualité.
Oui, on va pas parler de son hétérosexualité ou de son entourage forcément, ni de son homosexualité. On n'est pas obligé d'ailleurs.
Bien sûr, mais je dirais que l'hétérosexualité, considérant que c'est la majorité,
c'est la norme,
ça paraît plus facile à exprimer. Or, je vous assure que pour nombre de gens, parler de leur sexualité, même hétérosexuelle, est une histoire compliquée. Parce que d'ailleurs, est-ce qu'on a à parler de notre sexualité avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui on la vit ?
Non, on ne doit pas.
Bah, c'est
on
pas,
peut se poser la question,
c'est pas qu'on doit pas, mais je trouve pas que ce soit une obligation. On est dans une situation et une période de l'histoire où on se croit vraiment du devoir de dire
tout exhiber, tout dire, tout,
oui, de dire qu'on est acteur de notre sexualité, qu'on a des choix, qu'on a des pratiques. On n'est pas obligé, ça ne concerne pas les voisins, on n'est pas obligé de les faire rentrer dans notre chambre à coucher.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Ouais, enfin moi, je sais pas si j'ai envie de faire cette émission.
Je déteste cette époque.
On peut plus rouler vite, on peut plus picoler, on peut plus rien faire.
Vous confondez avec votre invité.
Ah,
avec
c'est vrai, je vais faire le portrait de Michel Sardou, c'est vrai aujourd'hui.
Alors que moi je vais parler de ceux qui ont détesté leur époque, mais de leur temps. Gustave Flaubert, dont c'est le bicentenaire de la naissance. Pier Paolo Pasolini aussi, qui détestait tout le monde. Hein. Les réacs, comme les étudiants. Bref, tous ceux qui détestent leur époque.
Et vous ?
Eh bien, moi, je vais parler de Michel Sardou.
Ah oui, vous aviez commencé.
Si vous écoutiez ce que je raconte.
Non, j'étais tout à fait à l'écoute.
Tout de suite, quand on, il suffit qu'on change quelque chose dans ce lancement. Mais Mélanie, vous êtes
perdue. Mais j'aime les routines, il y a un truc. Voilà,
vous êtes perdue.
D'accord,
je vais parler de Michel Sardou qui déteste tout et surtout son époque.
Très bien. Bon, pour Michel Sardou et les autres, on sera à l'écoute. Et vous aussi, restez sur Europe 1.